BFM Business, l'heure H, la question du jour.
La question du jour est avec Alain Griset. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Alain Griset, vous représentez 3 millions à peu près d'indépendants, d'artisans et de commerçants en France. Est-ce qu'on peut faire un premier point, peut-être aujourd'hui, de ce mois et demi de confinement ?
Tout d'abord, beaucoup d'inquiétudes auprès des chefs d'entreprise, qu'ils soient artisans, professionnels libéraux et commerçants. Inquiétudes comme tous les Français sur le plan sanitaire, sur le plan de la maladie, mais double inquiétude sur l'avenir de leur entreprise. Inquiétude pour savoir si effectivement, dans 6 mois, dans 8 mois, ils vont pouvoir continuer d'exercer leur métier et garder l'entreprise dans une situation correcte.
Oui, on sait qu'en fait, de nombreuses petites entreprises redoutent d'avoir à déposer le bilan avec cette panne d'activité. C'est leur activité totalement à l'arrêt. Vous avez déjà une estimation parmi les membres de l'UDP ?
Non, pour l'instant, vous savez, nos collègues tiennent à leur entreprise. C'est leur bébé quasiment. Hein. Mmh. Et donc, si vraiment ils devaient fermer, c'est la dernière extrémité, quitte à se priver eux-mêmes dans un premier temps de salaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une vague de fermeture ni une vague de licenciement. Et d'ailleurs, à l'UDP, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement pour avoir des mesures dont on espère qu'elles vont permettre à nos collègues de tenir en mars, avril, mai. Chômage partiel, le crédit PGE concernant le report de charges qu'on espère devenir des dégrèvements.
Oui, on va y revenir.
Tout ça est important. D'ailleurs, je voudrais signaler que on a une information concernant le chômage partiel. Pratiquement la moitié des entreprises n'ont pas fait les déclarations nécessaires fin mars au niveau des salaires payés pour toucher le chômage partiel. Donc pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Et beaucoup de nos collègues ont cru peut-être qu'en ayant les cordes, en étant inscrit, tout serait chômage. Non, il faut faire une déclaration dès que les salaires sont payés pour pouvoir les avoir. Et on voit bien que, on avait l'information ce matin de Muriel Pénicaud, la moitié des entreprises n'ont pas fait cette déclaration.
Oui, mais justement, je lui poserai la question. Demain, elle est notre invitée dans la matinale. Je la recevrai à 8h15, donc c'est un point important. Donc là, vous dites à vos adhérents, il faut faire une déclaration. Je veux dire, ça ne va pas arriver tout seul.
Oui, c'est impératif. Il faut que chaque mois, lorsque les salaires soient versés, faire cette déclaration de façon à ce que l'assurance chômage rembourse ses salaires. Et en général, c'est une dizaine de jours. Et je vous dis aujourd'hui, j'alerte mes collègues là-dessus, parce qu'ils vont se mettre en difficulté à la fin du mois là, pour payer les salaires du mois d'avril, alors que normalement, ils devraient pouvoir bénéficier des remboursements des salaires du mois de mars.
Ouais. Est-ce que le fonds solidarité, qui au départ était justement fait calibré pour les TPE, les petites entreprises, c'était 1500 euros, ça a été augmenté. Est-ce que ça reste insuffisant à vos yeux, Alain Griset ?
C'est pas tellement, enfin on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais non, la difficulté c'est que quand vous dites que ça a été augmenté, dans l'absolu oui, puisque ce qu'on appelle le deuxième étage est passé de 2000 à 5000 euros.
Oui.
Mais on voit bien qu'aujourd'hui les conditions d'accès à ce deuxième étage sont telles qu'il va quasiment être inaccessible pour 90% de nos entreprises. Et donc j'ai dit hier au ministre de l'économie, à Bruno Le Maire, qu'il fallait absolument qu'on revoie les conditions d'accès de façon à permettre, en particulier, et j'insiste toujours là-dessus, toutes les entreprises qui sont fermées par obligation, par décision d'État, devraient avoir zéro dépense alors qu'elles ont zéro recette. Et ça, naturellement, c'est valable pour les frais fixes, pour les loyers, pour l'EDF, pour le crédit bail. Enfin, tout ça, ça devrait être pris en charge dans le fonds de solidarité. Et aujourd'hui, ça n'est pas possible tel qu'il est construit.
Justement, c'est un point très important. C'est-à-dire que vous demandez... On voit bien que le report de charges, voire l'annulation de charges, a été rendu possible pour certains secteurs, dans le tourisme, dans le spectacle. Vous dites qu'il faudrait que cette annulation de charges, elle soit sur l'ensemble de toutes les entreprises en difficulté.
En tout cas, il paraît évident, absolument évident, je ne vois pas comment on pourrait le contester, qu'une entreprise qui a l'obligation de fermer depuis mi-mars, on lui continue à lui demander de payer des cotisations. Ça serait insupportable, financièrement et intellectuellement parlant. Il viendrait à personne l'idée de dire à un salarié, je t'interdis de travailler et en plus, je ne veux pas te payer. Donc aujourd'hui, nos collègues sont interdits de fonctionner et donc il est évident que les cotisations sociales doivent être totalement annulées et ça doit être annoncé très vite.
Oui. Et là-dessus, je sais que vous avez des contacts notamment avec Matignon et Bercy. Est-ce que vous avez un retour ou...
Non, mais là, il y a un premier pas qui est fait sur le secteur de l'hôtellerie, restauration, ouais. Café. Il n'y a pas de doute. De toute façon, c'est le secteur qui aujourd'hui est le plus impacté. Il y aura un plan massif pour ces secteurs qu'on partage. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à côté, vous avez des coiffeurs, esthéticiennes, fleuristes et d'autres métiers qui aussi sont touchés, qui eux peuvent espérer ouvrir au mois de mai. Mais on sait très bien que l'ouverture du 11 mai ne sera pas de toute façon une ouverture qui permettra tout de suite d'avoir un suite d'affaires normal. Et que donc ces entreprises peuvent être en très grande difficulté.
Ouais. Il y a une espèce de bras de fer, on le voit bien, beaucoup disent, il y a une sorte de fronde patronale hein, contre les assureurs, en disant qu'ils ne jouent pas le jeu sur notamment cette fameuse, les clauses de conditions de perte d'exploitation dans lesquelles l'épidémie ne rentre pas dedans. Est-ce qu'il y a des avancées quand même? Est-ce qu'il se passe quelque chose?
Voilà, ce matin, j'avais 2 heures de réunion avec les assureurs, avec d'autres intervenants. Bon, je pense que les assureurs aujourd'hui voient bien qu'il y a un vrai sujet. Alors, juridiquement, à juste titre, ils disent que c'était exclu des contrats. Mais il y a un pas entre le juridique et puis la vraie réalité. Et nous disons très clairement que, d'abord, les assureurs sont souvent des éléments de confiance pour nos entreprises, hein, qui, au-delà même de leur entreprise, confient aux assureurs, quelquefois leurs économies et d'autres, et que beaucoup de nos collègues considèrent qu'il y a une sorte de trahison, et qu'au moment où la difficulté est là, ils attendaient des assureurs une plus grande écoute, une plus grande compréhension. Et donc, au-delà de l'aspect juridique, je pense que les assureurs ont tort de pas contribuer plus à l'accompagnement de nos entreprises.
Mais le message, il est passé, ou vous pensez toujours qu'il y a une espèce de bras de fer est toujours là, Alain Griset?
Bras de fer est toujours là. On voit bien qu'il y a quelques compagnies qui commencent à ouvrir, puisque la MAF, qui est l'assureur historique de l'artisanat, puisque la MAF a été créée par les artisans, a ouvert la porte, puisque la MAF avait, depuis une vingtaine d'années, la perte d'exploitation réservée aux restaurateurs. Ils ont 6000 restaurateurs qui sont adhérents à la MAF, et là, ils ont dit qu'ils allaient prendre en charge pourquoi les gens étaient assurés. Donc, ils vont assumer la perte d'exploitation pour ces 6000 restaurateurs. Donc, c'est bien. Ouais. Il faut que d'autres assureurs suivent le même chemin.
Est-ce qu'il y a une différence, justement, entre les mutualistes et les compagnies privées? Différence d'attitude?
Chez les mutualistes, les professionnels sont plus investis, quelquefois, dans les conseils d'administration. Et donc, naturellement, notre voix est plus écoutée. Ce qui est normal. On fait partie de ceux qui, souvent, co-gèrent les organismes.
Et les banquiers, est-ce que les banquiers, on voit qu'il y a des efforts importants qui ont été faits, on voit que Bercy pousse beaucoup à la roue, on a l'impression que tout est fait, et en même temps, nous, on a beaucoup de remontées ici à BFM Business, hein, beaucoup de témoignages de gens qui disent « Ah, c'est compliqué, j'ai pas accès », un peu comme ce que vous disiez pour le chômage partiel. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les procédures sont extrêmement compliquées et lourdes, et souvent, il n'y a pas de retour.
Nous avions demandé à l'UDP dès les premiers jours qu'il y ait un document unique, identique pour tous les banquiers. Les banquiers nous ont expliqué que c'était très difficile, parce que d'abord ils ont des pratiques différentes, qu'ensuite il y a des systèmes informatiques qu'il aurait fallu modifier et ça aurait pu être long, et donc ils sont restés sur leur méthode spécifique. Deuxième chose, c'est vrai qu'on demande aux banquiers de faire le contraire de ce qu'ils font depuis toujours. Les banquiers, par habitude, ne prêtent que parce qu'ils ont étudié le dossier et parce qu'en gros, ils ont une certitude que le prêt va être remboursé. Là, on leur dit, il faut prêter à tout le monde. C'est compliqué. Et puis, troisième élément, bon, les banquiers, ils ont aussi un problème de flux. On voit bien qu'on demande aux banquiers de traiter en 15 jours, 3 semaines, ce qu'ils traitent quelquefois en 2 ans, en nombre de dossiers. Ouais. Et que c'est pour ça qu'à partir du moment où le dispositif n'est pas automatisé, on a une sorte d'embouteillage, vous savez, un peu comme on départ en vacances. En temps habituel, l'autoroute, vous pouvez rouler tranquillement. Le départ en vacances, vous mettez 4-5 heures de plus pour faire le même trajet. C'est pareil dans les banques. Il y a une telle afflux qui n'arrive pas à avoir tout le monde à la fois. Et puis ensuite, on a un dernier sujet avec les banques qui normalement doit être réglé suite au vote de la loi de finances. C'est que ont accès aussi à ce prêt de trésorerie les entreprises qui sont en difficulté. Il faut le dire très clairement. Les entreprises en difficulté, elles ont été rejetées là depuis 15 ou 3 semaines, globalement, par tous les réseaux bancaires. Ouais. Les nouvelles dispositions votées par le Parlement donnent accès aux prêts de trésorerie auprès des banques. Et là, j'insiste beaucoup, on a quelquefois une petite approche différente avec Frédéric Audéa sur ce sujet, mais en ce qui nous concerne, il n'y a pas photo. Il faut absolument que toutes les entreprises aient accès à ce PGE.
Et là, vous avez le soutien de Bercy, quand même, de Bruno Le Maire, qui ici même nous a dit qu'il fallait que toutes les entreprises aient accès à ces, justement, à ces fonds. Mais comme vous dites, il faut que les banquiers jouent le jeu. En tous les cas, vous négociez avec Frédéric Oudéa, le président de la Fédération bancaire française. Merci beaucoup, Alain Griset, d'avoir été avec nous. On le disait, un des points importants pour le déconfinement, eh ben, c'est le transport, les transports publics pour les salariés, notamment. On en parle dans un instant avec Patrick Jeantet, qui est le président du directoire de Keolis. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Patrick Jeantet, président directeur de Keolis. Keolis, vous le savez, c'est un acteur majeur du transport. Merci d'être avec nous, Patrick Jeantet. Cette fois-ci, on a l'image même. Vous êtes par FaceTime. Patrick Jeantet, comment est-ce que vous voyez la situation aujourd'hui dans les transports? Je recevais ce matin Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui disait aujourd'hui, il y a 500 000 personnes en Île-de-France. D'habitude, il y en a 5 millions. Pour vous, la différence, elle est quoi par rapport au rythme quotidien normal?
Bon, bonjour Edwige Chevrillon. Oui, alors évidemment, on est dans une situation tout à fait paradoxale, tout à fait particulière. Depuis début mars, depuis le 17 mars, on est en confinement et donc on a assuré des services de transport public dans l'ensemble des réseaux, en tout cas en France, dans une cinquantaine de réseaux urbains, hein, puisqu'on est le premier opérateur urbain en France, notamment à Lyon, Bordeaux, Lille. Évidemment, des services qui ont été diminués, à peu près 30% des services normaux. Et pourquoi cela? Parce qu'il fallait évidemment qu'on puisse alimenter ou aller chercher les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les soignants par exemple, ou amener les gens dans les magasins d'alimentation. Et donc, on est dans une situation où on continue notre activité de manière évidemment dégradée. Et évidemment, on a donc des conducteurs, des mainteneurs, parce qu'il faut maintenir nos bus, nos cars, qui travaillent tous les jours. Et d'ailleurs, je voudrais les féliciter parce qu'ils sont en première ligne. Nous sommes dans le premier front avec les soignants, support des soignants en particulier. Et voilà la situation d'aujourd'hui. Je dirais la première chose qu'on a réalisée, évidemment, c'était s'assurer qu'on puisse transporter les gens en toute sécurité, évidemment, sécurité sanitaire.
Oui, on va y revenir. Il y a combien... Pardon, Patrick Jeantet, c'est vrai, c'est toujours pas simple de s'interrompre comme ça, mais quel est le pourcentage de bus, de rames en circulation? Je parle pour Keolis par rapport au rythme normal.
Alors aujourd'hui, on a à peu près 30% des circulations. Par rapport au rythme normal.
Partout, c'est la même chose à Bordeaux, à Lyon, en Ile-de-France.
Oui, c'est à peu près, il y a des petites différences, mais on va dire que c'est entre 25 et 40%.
Si d'accord. Vous voyez, hein.
Donc c'est à peu près uniforme partout. Par contre, évidemment, on a une fréquentation qui est beaucoup, beaucoup plus faible, hein, puisqu'on a une fréquentation qui est de l'ordre de 5% en moyenne. Alors, donc voilà un peu le paysage. Et ça, c'est la situation d'aujourd'hui, bien sûr. Hein. Alors ça va changer à partir du 11 mai, et c'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de se préparer à ce post-confinement.
Évidemment, on y revient juste. Ce matin, j'entendais une petite polémique sur la question du nettoyage, notamment des cars, sur les conditions. Vous mobilisez combien de personnes pour nettoyer le matériel roulant?
Alors, on a l'obligation, et puis on a l'initiative. D'abord, on ne nettoie plus, on désinfecte. C'est-à-dire qu'avant, on avait des produits de nettoyage.
Bien sûr, pardon.
Maintenant, on a des virucides. Et on nettoie nos matériels au moins une fois par jour, parfois un peu plus. Et donc, on le fait avec nos équipes de nettoyage habituelles qui sont sur les dépôts et qui viennent donc tous les matins et tous les soirs nettoyer les cars qui reviennent au dépôt. Et ça, on fait évidemment matin et soir, et on le fait en milieu de journée aussi quand on a ce qu'on appelle des relèves. Et donc voilà, c'est le rythme à quel on fait cette désinfection.
Est-ce que vous avez beaucoup de droits de retrait qui s'exercent chez vous, de la part des conducteurs ou des contrôleurs?
Extrêmement peu de droits de retrait. Peu de droits de retrait. Une des raisons à cela, c'est qu'on a pris des mesures assez strictes dès le début, même avant d'ailleurs que les décrets gouvernementaux sortent, sur le fait d'isoler le conducteur. Par exemple, vous ne pouvez pas monter aujourd'hui par les portes avant, vous montez par les portes arrière. Le premier rang est libre. Donc on l'a isolé par soit de la rubalise, soit des chaînettes plastiques qui empêchent les voyageurs d'aller près du conducteur. Et puis on a interdit la vente à bord, hein, puisque là il y a échange de monnaie, donc c'est bon ni pour le conducteur ni pour le passager. Donc toutes ces mesures ont été de nature à rassurer nos conducteurs, et c'était normal, c'était évidemment à juste titre. Donc non, nous n'avons pas de droit de retrait.
Une place sur, est-ce qu'il y a une place sur deux pour les voyageurs? Parce qu'on a vu les images de vol aérien où on voit tout le monde entassé, notamment d'Air France. Est-ce que c'est la même chose chez vous si on regarde les images dans les cars de Keolis?
Non, pas du tout, parce que d'abord, comme je vous le dis, hein, il y a moins de 5% de fréquentation, ouais. C'est-à-dire dans les bus normaux. D'ailleurs, vous le voyez, moi je suis à Paris et je vois les bus de RATP, vous avez 4 personnes dans les bus. Hein, donc évidemment, et les gens sont conscients quand même du danger, et donc ils ne s'assiedent pas côte à côte. Donc ils sont assez éloignés les uns des autres. Donc en réalité, non, nous ne faisons pas tellement face à ce sujet-là.
Patrick Chantal, je voudrais soulever un peu une contradiction, mais c'est une question que j'ai posée aussi à d'autres, c'est qu'on dit il faut reprendre le travail, donc les entreprises poussent, les dirigeants, même les ministres, poussent les Français à retravailler, et en même temps, on voit bien que sur le plan des transports publics, des moyens mis à disposition des salariés, c'est extrêmement compliqué. Je suis allée sur votre site, et on voit c'est fermé, ça ne circule pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de dire il faut vous confiner, mais en même temps, il faut aller travailler, et en même temps, il y a des moyens à votre disposition qui n'existent pour l'instant quasiment plus, faute de fréquentation?
Je pense qu'on a, on a deux phases. C'est-à-dire qu'on a la première phase aujourd'hui où il faut être confiné, sauf si vous êtes essentiel pour faire tourner le pays dans les conditions du confinement, c'est-à-dire les services essentiels. Sans ça, il ne faut pas aller sur le terrain ou travailler. Il y aura une deuxième phase que le gouvernement a annoncée à partir du 11 mai, qui sera celle où justement l'activité économique va repartir. Et d'ailleurs, chez nous, chez Keolis, tous les gens qui sont dans les bureaux, aujourd'hui, sont en fait pas dans les bureaux, ils sont en télétravail. Oui. Comme moi aujourd'hui, d'ailleurs, je suis confiné chez moi et je télétravaille. D'ailleurs, je peux vous dire que je télétravaille sans doute, ou je travaille sans doute beaucoup plus que quand je suis au bureau, parce que toutes mes économies de temps de déplacement, je les passe à faire des conférences, des réunions, souvent d'ailleurs par vidéo, avec mes équipes pour pouvoir justement organiser les travaux, les transports aujourd'hui et les préparer pour demain.
Est-ce que ça vous donne justement des idées, Patrick Gentel? J'en profite quand même pour avoir un témoignage direct d'un grand patron. Est-ce que ça vous dit, tiens, je vais peut-être réinventer un peu l'organisation de mon entreprise, on sera peut-être plus en télétravail, donc ça veut dire moins de bureaux à terme, etc. Est-ce que c'est une réflexion que vous êtes en train de conduire, comme d'autres?
Oui, c'est clairement une prise de conscience. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on se dit dans les entreprises, on pourrait diminuer le nombre de réunions physiques et en faire beaucoup plus par téléconférence. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait, sauf avec vraiment les pays étrangers, parce que vous savez que Keolis, on est présent dans 15 pays au monde, hein, notamment la Chine.
Bien sûr.
Ce qui est très intéressant pour nous, parce que du coup, on a l'expérience avec un mois et demi d'avance grâce à la Chine. Mais évidemment, avec ces pays-là, on fait beaucoup de téléconférences. Mais en France, on fait beaucoup peu. Et donc, je pense que dans le futur, on va changer ce rythme-là. Alors, ça n'empêchera pas qu'il faut avoir des contacts physiques, parce qu'il y a des choses qui... Vous savez, ce qu'on appelle le langage non-verbal, il ne passe pas très bien dans la vidéo, même avec des vidéos de bonne qualité.
Et donc,
on a quand même besoin de rencontrer les gens.
Oui. Je vous le confirme, pour une interview, évidemment, c'est pas du tout la même chose si vous avez la personne en face de vous ou si vous avez l'âme, même si l'image est très bonne, comme vous dites, par FaceTime. Patrick Jantet, comment vous voyez justement cette phase de déconfinement? Vous le disiez, vous êtes en Chine, vous êtes au Danemark, où les phases de déconfinement ont commencé. Quelles sont les leçons, ou les enseignements plutôt, que vous en tirez par rapport au déconfinement en France?
Je pense que la première chose, en effet, apparemment, il y aura déconfinement. On va avoir beaucoup plus de gens, puisque l'activité économique va repartir, qui vont avoir besoin de se déplacer.
Oui.
Alors on le constate, en Chine aujourd'hui, un mois et demi après le redémarrage de l'activité économique en Chine, à Shanghai aujourd'hui, la fréquentation dans les lignes de métro qu'on exploite, c'est à peu près 60% de la fréquentation normale. Et on s'aperçoit en effet que beaucoup de gens ont décidé de prendre leur voiture. Donc mon premier point, ça sera de prendre des mesures pour que les gens, évidemment, puissent prendre les transports en commun en toute sécurité, et des mesures qui donnent confiance aussi. Donc il y a un problème de sécurité sanitaire et un problème de confiance. Alors sur le problème de sécurité sanitaire, de mon point de vue, il y a des mesures qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, avec mes collègues des différentes entreprises de transport public, on a écrit au Premier ministre en disant la première chose à faire, c'est le port du masque obligatoire dans les transports publics à partir du moment où on va rentrer dans cette deuxième phase. C'est essentiel parce que, pour être très clair, la distanciation sociale de 1 mètre, comment la faire respecter dans un bus ou dans un métro?
C'est
ça
clair.
Paraît extrêmement complexe. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut un autre système. Et l'autre système, c'est évidemment le masque, puisque vous savez que la distanciation sociale, elle est là pour éviter justement des projections de salive de l'un vers l'autre. Et donc, avec le masque, on l'arrête. Puis, il y a une deuxième chose, un deuxième point qui me paraît essentiel, c'est un renfort de cette désinfection. Et moi, je suis en train d'étudier des mesures, par exemple, pour avoir des équipes volantes qui, dans les métros et les trams, puissent aller désinfecter tous les supports auxquels on se tient. Parce que le deuxième moyen, enfin plutôt le deuxième média de contamination, c'est évidemment la main. Et c'est le fait que, vous savez, on se touche le visage plusieurs milliers de fois par jour. Mmh. Donc, le port du masque, plus la désinfection des supports, comme par exemple les barres de maintien, les poignées, les boutons.
Comme on fait chez soi pour l'instant.
Ces deux mesures-là, on va donner confiance et on va attirer de nouveau des gens dans les transports publics.
Est-ce que vous, ce matin, Valérie Pécresse, elle disait, c'est clair, d'habitude, il y a 5 millions de Français, de Franciliens qui utilisent les transports publics en Ile-de-France. Aujourd'hui, c'est 500 000. Demain, après le 11 mai, ça ne pourra être qu'un million au mieux. Donc, ça veut dire qu'il faudra un rationnement, il faudra presque une autorisation pour utiliser les transports publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? C'est-à-dire que vous, patron de Keolis, vous allez dire, ben voilà, il y a que tant de personnes qui pourront utiliser nos moyens de transport.
Ben, tout dépend là d'une question importante. Il y a deux questions à résoudre. La première, c'est à quelle vitesse, par exemple, les écoles vont rouvrir? Parce que vous savez que nos conducteurs, par exemple, des enfants.
Les grandes sections.
Ces enfants vont à l'école. Si ces enfants ne vont pas à l'école, évidemment, il faut les garder. Et donc, on a un sujet de capacité, de nombre de conducteurs disponibles. Ouais. Ça, il faut le régler. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre comment cette activité économique et scolaire, en l'occurrence, va reprendre. Deuxième sujet, ça c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est évidemment, est-ce qu'on va restreindre dans les transports publics le taux de remplissage de nos voitures dans les métros ou de nos cars ou de nos bus? Moi, je n'y suis personnellement pas très favorable, mais c'est une question qui s'étudie. J'y suis pas très favorable à partir du moment où on a l'obligation de mettre des masques. Et ça, c'est vraiment pour moi l'obligation impérative, c'est-à-dire qu'il faudra interdire l'entrée des gens dans les transports publics
sans masque.
Pas de masque, voire même les verbaliser si ne voulaient pas. De telle manière véritablement qu'on l'impose. Et à ce moment-là, on peut très bien ne pas limiter le taux d'emport de ces transports publics et donc, du coup, assurer une capacité beaucoup plus importante. Mais oui, il y aura cette phase progressive de montée en puissance, qui est évidemment un sujet, et je pense que Valérie Pécresse, sur ce sujet-là, a entièrement raison de poser la question et de s'interroger.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Jattet, donc le président du directoire de Keolis, qui était notre invité dans l'Orage. Voilà, c'est la fin de l'Orage pour l'instant. On se retrouve bien sûr demain, je recevrai à 8h15 Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Je reviendrai justement sur toutes les questions qu'on vient d'aborder. Et puis je recevrai ensuite Frédéric Mazzella, le patron de Blablacar, qui a plein d'initiatives. Avec lui, il est aussi coprésident de France Digital. On verra l'impact sur toutes les start-up de cette crise du coronavirus. Bonne journée, bon confinement, on se retrouve demain. Et les experts.